Quand je t'ai connue, je n'étais qu'une enfant, avec toute l'insouciance qu'elle comprend. Je n'avais jamais pensé à toi auparavant, pourtant il m'arrivait de te croiser en sortant, et je savais ce que tu étais. Mais à ce moment-là, je ne m'étais pas encore intéressée à toi. Et puis j'ai commencé à me rapprocher de mon Seigneur, je lisais, je cherchais, je recherchais, je questionnais. J'étais curieuse et j'apprenais toujours plus, jour après jour. Je sentais que je me rapprochais d'Allah. Plus je cheminais vers lui, plus je ressentais le besoin de te découvrir sans même savoir ce qui m'attendait. Je n'ai jamais eu aucun doute ni aucune réticence à ton égard. J'étais sûre de moi et j'ai emprunté la route qui m'a menée jusqu'à toi. J'ai demandé à Allah de me faciliter et je suis allée te voir. La première fois, j'étais avec mon papa. Il m'avait accompagnée pour aller à ta rencontre. J'étais un peu perdue car c'était nouveau pour moi. Je te regardais, je t'observais et puis je t'ai pris avec moi. En rentrant, je t'ai regardé à nouveau, puis je t'ai déposé. Je t'ai ensuite essayé, mais c'était compliqué. Tu bougeais, tu glissais, tu te détachais. Tu n'arrivais pas à rester en place. Trop compliqué pour moi. Alors, j'ai décidé de te laisser et d'en trouver un autre qui me conviendrait mieux. Un matin, je suis allée au marché. Cette fois, accompagnée de ma maman. Je t'ai revue. Tu étais là, mais tu étais différent. J'ai demandé à ma maman de te prendre avec nous, chose qu'elle a acceptée sans broncher. J'étais contente, excitée même, je dirais. On est retourné à la maison. Je me souviens que c'était en été, il faisait chaud, mais je tenais absolument à t'essayer. Et là, c'était mieux. Tu tenais en place. Tu ne bougeais pas. Je m'étais dit que cette fois-ci, c'était la bonne. Je me regardais, je te regardais et je t'ajustais. Je me sentais bien et je voulais que tu sortes avec moi. Dans l'après-midi, on est sortis. Mais avant, je me suis regardée une dernière fois dans le miroir pour m'assurer que tu étais bien placée. Et je suis partie. Quand je suis sortie de l'ascenseur, j'ai réalisé que tu étais avec moi, mais pas seulement sur l'instant présent. J'ai pris conscience que désormais, ce serait pour la vie, que tu serais toujours là avec moi et que je ne te lâcherais pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte du hall d'entrée. Je me suis retrouvée dehors et ce que j'ai ressenti ce jour-là ne se décrit pas. Il faut le vivre, un mélange de joie et de satisfaction. Je me sentais bien, à l'aise et surtout heureuse de ce que je venais d'accomplir dans ma vie en tant que femme musulmane. J'avais l'impression de briller, de scintiller. Je me disais qu'Allah était fier et satisfait de moi, qu'il me récompenserait pour ce que j'ai fait pour lui et envers lui. Et c'était pour moi comme une manière de le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi jusqu'à présent. On a grandi, évolué et appris ensemble. Tu m'as protégé et préservé de bien des choses. Notre lien s'est fortifié avec le temps. On a connu des hauts et des bas, des moments de faiblesse, mais je n'ai jamais songé à te délaisser après tout ce que tu m'as apporté. Et je sais que tu continues de m'apporter encore aujourd'hui et que tu continueras de le faire dans le futur. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je prie Allah pour qu'on reste ensemble jusqu'à la fin. Tu fais partie de moi et je ne peux pas m'imaginer sans toi. Si un jour on devait se séparer, le problème viendrait de moi et je m'en voudrais terriblement. Mais ça, qu'Allah m'en préserve, on a encore du chemin à parcourir ensemble, Inch'Allah, et ce n'est que le début. Alors ça, je t'explique, c'est un poème que j'ai écrit il y a 2-3 ans, il me semble, qui retrace vraiment, qui résume parfaitement mon histoire avec le hijab. Cet épisode-là, ça faisait un moment que je voulais le faire, que je devais le faire. On me l'a beaucoup demandé, subhanallah. parce que j'ai déjà fait un épisode sur le port du hijab en tant qu'adoration. Mais je ne t'ai encore jamais raconté mon parcours, mon histoire concernant les hijabs. Quand, pourquoi et comment j'en suis venue à le mettre. Et bah, c'est ce qui va être l'objet de cet épisode, Inch'Allah. Je vais tout te raconter de A à Z. Alors, ne t'attends pas à une histoire extraordinaire, à un truc hors du commun, à ce que je te dise que j'ai vu un ange dans un rêve qui m'a fait une révélation ou que sais-je, parce que c'est pas du tout le cas. La manière dont je me suis voilée, en fait, ça s'est fait naturellement. Voilà, ça s'est fait naturellement. Alhamdoulilah, je suis née et j'ai grandi et j'ai été éduquée au sein d'une famille musulmane pratiquante. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu mes parents faire la prière, je les ai toujours vus jeûner et ils nous ont toujours encouragés à le faire également. J'ai commencé les cours d'arabe et de Qur'an très jeune avec mon papa, qui, Allahumma barik, est une personne très instruite, que ce soit au niveau de la religion ou de l'arabe. D'ailleurs, mon papa, il est parfaitement arabophone, mashallah. Quand j'étais petite, on effectuait souvent la prière en famille. Même le tarawih, on le faisait en famille. C'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à mes parents, pour nous habituer à la prière. Tous les week-ends, mon père il nous parlait d'Allah, il nous parlait du prophète et de religion de manière globale. C'était super intéressant. Honnêtement, c'était super intéressant. On posait plein de questions et on apprenait énormément de choses. C'est dans ce contexte-là que j'ai grandi, alhamdoulilah. Même s'ils étaient parfois un peu durs, c'est vrai. Mes parents ont réussi à mettre l'amour d'Allah et de la religion dans nos cœurs, à mes frères et sœurs et à moi. Les années passent, je grandis, Internet fait son apparition, hein? Google débarque, on a un ordinateur à la maison. En grande curieuse que j'étais, et que je suis toujours, je commence à faire des recherches un peu plus poussées sur la religion. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais attirée, je m'intéressais beaucoup au monde du Ghaib, au monde de l'invisible, surtout tout ce qui était djinn et compagnie. Je suis tombée sur des choses, subhanallah, effrayantes, des choses terrifiantes, parce que j'étais petite, hein. J'avais 10 ans à tout casser. Mais j'étais tellement curieuse que j'allais un peu trop loin dans mes recherches. Et souvent, je tombais sur des choses que je n'avais pas à voir, que je n'avais pas besoin de voir, en tout cas à cet âge-là. En dehors de ça, j'aimais beaucoup écouter du Qur'an, à l'époque sur Dailymotion, avec la traduction en français. Je comprenais pas, hein, mais juste l'écoute du Qur'an me faisait du bien. J'aimais beaucoup aussi aller sur le site Sajidin. Ah, franchement, ce site, ma sœur, subhanallah, je passais des heures et des heures et des heures. J'avais appris tellement de choses. J'aimais trop. Il me semble même que j'avais lu tous les articles de toutes les catégories du site, tellement j'y étais accro. Ce qui s'est passé après, comme mon père y voyait que j'avais un intérêt accru pour la religion, il a décidé un jour de m'emmener à Couronne. Je ne connaissais pas cet endroit, je n'en avais jamais entendu parler, et subhanallah, je ne savais pas qu'un tel lieu sur terre existait. Là, j'avais entre 10 et 11 ans, plus vers mes 11 ans. On prend le RER, on prend le métro, la ligne 2, et on arrive. On arrive à destination. On sort du métro, on tourne sur notre droite, et là, je vois une rue en pente sur laquelle il n'y a que des maktabas. Il n'y a que des commerces tenus par des musulmans. Et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'avait un petit peu surprise quand même. Et donc avec mon père, on commence à faire le tour des librairies. Je prends quelques livres par-ci par-là. Et je me souviens que j'avais été marquée, j'avais été frappée par une chose en particulier. C'est que toutes les femmes que j'avais croisées ce jour, que ce soit dans les rues ou dans les librairies, la plupart en tout cas, étaient voilées. Elles portaient le hijab. Faut savoir qu'à cette époque, parce que c'était dans les débuts des années 2000, le hijab n'était pas répandu comme il l'est actuellement. Hein. Ça n'avait strictement rien à voir. Il y avait des femmes voilées, mais pas énormément, comme maintenant. Et surtout, j'avais assimilé le hijab à la prière et aux femmes d'un certain âge et aux maghrébines, aux arabes, et rien d'autre. Pour moi, c'était un vêtement qu'on portait qu'au moment de la prière et qui était réservé aux arabes et aux vieilles, entre guillemets, à celles que je considérais comme étant vieilles. Donc moi, j'étais là parmi tous ces livres et parmi toutes ces femmes en hijab, et je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Personne dans mon entourage ou dans ma famille ne le portait, en dehors de la prière. Et pourtant, subhanallah, je savais que c'était uniquement les femmes musulmanes qui le mettaient. Mais ce n'est pas pour autant que je comprenais pourquoi elles portaient un hijab. C'était l'incompréhension totale. Bon, on continue notre petite balade dans les rues de Couronne et on finit par rentrer à la maison. Bon, moi, j'étais trop contente, j'avais pris mes livres et à peine rentrée, je m'étais mise à lire direct. J'avais même pas attendu. Je lis, je m'instruis, j'apprends, je bois la science. Et plus j'apprends, plus j'ai envie d'en savoir davantage, notamment sur le hijab. C'était resté quand même dans un coin de ma tête. Il fallait absolument que je sache, que je comprenne ce qu'est ce vêtement, sinon je n'allais pas avoir l'esprit tranquille. En fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que j'étais concernée par le hijab, mais il fallait que j'en aie le cœur net, que j'ai le fin mot de cette histoire. Et bizarrement, très étrangement, j'ai commencé à croiser de plus en plus de sœurs en hijab. Quand je sortais, quand j'allais au collège, j'avais même l'impression de ne voir que ça. Alors qu'avant, je n'en voyais pas, ou très peu. Et celles que je croisais, c'était des vieilles. Je me suis dit, bon, Hawa, il va falloir sérieusement te pencher sur le sujet là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché, je me suis documentée, je me suis informée, je me suis renseignée et je suis tombée sur Ayatul Hijab, le verset 31 de la sourate An-Nur, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, et ainsi de suite. La suite du verset dans laquelle Allah il décrit, il explique devant qui la femme a le droit de se dévoiler. J'avais 11 ans. En lisant ce verset, je n'ai strictement rien compris. Il y avait trop d'informations. J'avais besoin de quelque chose de plus simple, si je peux dire ça comme ça. Ce verset était beaucoup trop compliqué à comprendre à ce moment-là de ma vie. Je n'ai pas cherché à aller plus loin et finalement, j'ai laissé tomber. Quelques temps plus tard, je dirais peut-être 5-6 mois après, un jour, voilà, je regarde une vidéo dans laquelle il était fait mention du verset 59 de la Sourat Al-Ahzab. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et là, je ne saurais pas t'expliquer, mais j'ai compris. J'ai compris. À l'âge que j'avais, ce verset était beaucoup plus explicite, beaucoup plus parlant et évident. Et pour le coup, je l'ai ressenti, je l'ai reçu comme une révélation, subhanallah. Parce qu'en plus, comme je te l'ai dit, moi j'avais lâché l'affaire avec cette histoire de hijab. Et Allah a fait que ce verset vienne à moi, sans que je m'y attende, sans que je le recherche. Et à partir de cet instant, je me suis dit, il faut que je porte le hijab. Il faut que je me voile. Je n'ai pas cherché midi à 14h. Dès lors, chaque fois que je croisais une sœur en hijab, j'étais impressionnée. Mais je n'osais pas leur passer salam. Je voulais trop être comme ces femmes que je voyais en hijab parce que je les voyais comme un modèle, tu vois. J'avais quand même une petite appréhension parce que j'étais très jeune et j'en étais consciente. Hein. Il n'y avait aucune fille de mon âge dans mon collège, dans mon quartier qui le portait. Et j'avais peur que mes parents ne soient pas d'accord. J'en ai parlé à mon père, je m'en souviens très bien. Je lui avais dit, papa, j'aimerais beaucoup me voiler, j'aimerais beaucoup porter le hijab. Il était réticent, c'est normal, c'est un père, parce que j'étais un bébé, j'étais une collégienne, j'étais en cinquième. Hein. Ma mère aussi, j'en avais parlé. Et il trouvait que j'étais quand même très jeune, trop jeune pour le porter, trop jeune pour penser à le porter. Mais honnêtement, ils n'ont pas fait opposition à ma volonté, pas du tout même. Ils avaient juste peur pour moi en tant que parent, peur des conséquences et des répercussions que ça pourrait avoir dans le futur. Mes problèmes. Problème, je n'avais pas de hijab. Je n'avais pas de hijab et ce que je mettais pour la prière, en fait, c'était des kalas. Les kalas, c'est une sorte en fait de grand tissu que tu enroules autour de toi. Mais enfin, je n'allais pas sortir avec ça. C'était pour la maison. Alors, je suis retournée à Couronne avec mon père, toujours. Hein, et on a commencé à chercher des hijabs. Et on était allé dans la boutique Zeina. Je ne sais pas si elle existe encore, Zeina Boutique, qui était tenue que par des femmes, dans laquelle il y avait plein de robes, plein de tenues, plein de abaya, plein de hijab, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Ça brillait. J'étais émerveillée, éblouie, époustouflée, ébahie, subjuguée, tout ce que tu veux. C'était le paradis du hijab. Pour moi, là, j'étais au paradis. Hein. J'étais au paradis. Il y en avait partout autour de moi. Il y en avait partout autour de moi, au point où je ne savais plus où donner de la tête. J'étais trop excitée, subhanallah. J'avais été attirée par des hijabs à strass, hijabs avec des perles, tout ce qui était un petit peu tape à l'œil. J'en avais pris deux. Un noir et un bleu nuit. Et la vendeuse, elle m'avait donné des épingles pour les attacher. Elles étaient trop belles, les épingles, d'ailleurs. J'étais tellement contente. Tellement, tellement, tellement contente, ma sœur, que j'étais pressée de rentrer chez moi pour les essayer. Ah, franchement, j'avais hâte. J'avais hâte. Mais, deuxième problème, et pas des moindres et auxquels je n'avais pas pensé, c'est que je ne savais pas attacher un hijab. Je ne savais même pas que ça s'attachait. Quand je les ai déballés, j'ai rien compris. J'ai vu flou. Donc, c'est aussi compliqué de mettre un hijab. Moi, je ne savais pas. Je pensais que j'avais juste à le mettre sur ma tête et voilà. Pas du tout. Pas du tout. En plus, comme je t'avais dit, la vendeuse, elle m'avait mis des épingles. Mais j'avais pas capté que c'était pour attacher mon hijab. Moi, je pensais que c'était juste un cadeau, quoi. Mais bon, j'ai essayé, hein. Mais franchement, je n'arrivais pas à faire tenir mon hijab. Ça n'arrêtait pas de glisser, de se détacher. Je m'étais dit non, non, ça ne va pas être possible. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que j'étais trop pressée de le mettre. Un mercredi matin, en plein été, ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. Il me semble que c'était pendant la canicule. J'avais été au marché avec ma maman et on avait été à un stand de hijab. C'était un stand de hijab cagoule. Hein. Tu sais, les hijabs que tu que t'as juste à enfiler. Ma mère m'en avait pris trois. Un noir, un couleur camel et un gris foncé, pardon. Je m'en rappellerai toute ma vie. Ils étaient moins jolis, c'est vrai, moins chers, mais beaucoup plus pratiques. Et moi, je m'en fichais que mon hijab soit joli ou pas. Ce que je voulais, sur l'instant présent, c'était juste le mettre le plus vite possible. On est rentré à la maison. J'ai déballé le hijab couleur camel. Il y avait un bonnet tube et le hijab cagoule. J'ai pris le bonnet. Je l'ai mis. J'ai enfilé le hijab. Et je me suis regardée au miroir. Je l'ai ajusté. Et cette fois-ci, bingo. C'était la bonne. Et je m'observais, je me fixais, je me contemplais, hein. Ce que j'avais vu jusqu'à présent sur les autres, je l'ai vu sur moi. Et j'ai ressenti le besoin, j'ai ressenti l'envie de sortir avec. J'avais envie que tout le monde sache que je me suis voilée tellement, ma sœur, que j'étais fière de ce que j'avais fait pour Allah. Tellement j'étais heureuse de m'être voilée, il fallait que tout le monde me voie avec, que tout le monde soit au courant, qu'un maximum de personnes soient au courant. Dans ma tête, ce que je venais d'accomplir, c'était exceptionnel, c'était incroyable, dans le sens où je l'ai ressenti comme un accomplissement en tant que jeune fille. L'après-midi même, je suis sortie. Depuis qu'on était rentré du marché avec ma mère le matin et que j'avais essayé mon hijab, je ne l'avais pas retiré. Je ne voulais pas le retirer. J'étais et je me sentais extrêmement bien avec. Je ne voulais pas m'en séparer. Avant de sortir, subhanallah, j'ai réalisé que ça y est, ma vie s'apprêtait à changer à tout jamais, parce que ce que je portais là n'était pas anodin, ce n'est pas n'importe quel vêtement, ce n'est pas un accessoire, non, ce n'est rien de tout ça, c'est un hijab, c'est le vêtement qu'Allah m'a ordonné de porter, c'est le vêtement qu'il m'a décrété et qu'il a destiné à toutes les femmes musulmanes de l'humanité. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs, leur classe sociale, peu importe. On est toutes égales et sur un même piédestal face à Allah vis-à-vis du port du hijab. Que le hijab que je porte, à compter de ce jour, je le garderai jusqu'à ma mort. Qu'il m'accompagnera tout au long de ma vie. Que je ferai tout avec lui. J'ai réalisé et conscientiser tout ça dans ma petite tête. Et je suis sortie. J'ai poussé la porte du hall d'entrée. Et je me suis retrouvée dehors. J'étais un petit peu stressée quand même. Hein. Je me souviens que j'étais un petit peu stressée. Je me suis retrouvée en hijab. Dehors. Pour la toute première fois de ma vie. À 12 ans. Et c'était en 2006. Je n'ai plus, je n'ai pas la date exacte parce que, en fait, j'étais tellement dans la hâte, j'étais tellement pressée que j'ai pas pensé à noter la date quelque part. Mais je sais que c'était en été 2006, en juin ou juillet de l'année 2006. Ce jour-là, subhanallah, le soleil il tapait fort. Le ciel il était tout bleu. Il n'y avait pas un seul nuage à l'horizon. J'ai commencé à marcher et j'étais comme dans une bulle. J'étais tellement heureuse, tellement contente que je ne voyais rien autour de moi. J'étais dans ma bulle d'euphorie, mais vraiment. Pour te dire, je me souviens même que je sautillais, je courais, je faisais des pas chassés et tout. Tellement j'étais au max de la joie. Et puis, subhanallah, je me trouvais belle. Mais vraiment, tellement belle vis-à-vis d'Allah, pas des gens. Dans ma tête, dans mon cerveau d'enfant, dans mon cerveau d'adolescente, je me disais que Allah, il me trouve belle. Parce que c'est ce qu'il veut que je porte. C'est comme ça qu'il veut que je m'habille. Donc, je ne peux qu'être belle. Non, franchement, subhanallah, je t'en parle. Mais à ce moment-là, j'étais au max. C'était vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie. Et ce qui rend la chose plus belle à mes yeux, c'est que j'étais jeune. J'étais jeune et j'ai fait les choses spontanément. Je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai même pas eu de waswas. Allah, il m'en a préservé. Je l'ai porté avec toute l'insouciance de l'enfance, l'insouciance de l'adolescence. Avec le recul, maintenant que j'ai 30 ans, je comprends mieux pourquoi il nous est demandé de nous voiler au moment de la puberté ou avant. C'est parce que c'est une période de la vie où en général, hein, on ne se pose pas de questions, on est insouciant, on est indifférent, on est spontané. Ce qui fait que moi, j'ai grandi avec le hijab, j'ai cheminé avec le hijab, j'ai évolué avec le hijab et j'ai appris à vivre avec. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça fait 18 ans que je le porte et inshallah, je ne compte pas le retirer. Et pour être très sincère avec toi, ça ne m'a encore jamais traversé l'esprit de l'enlever. En revanche, ça m'est déjà arrivé quand j'étais un peu plus jeune de vouloir le raccourcir. Parce qu'au départ, quand je l'ai mis, j'avais des tenues passe-partout. C'est au lycée que j'ai commencé à m'habiller de façon un petit peu plus couvrante. Et le djilbab, je l'ai mis bien après. Hein. Mais quand j'ai mis le djilbab, j'ai vu que ça coinçait un peu quand je cherchais du travail. J'ai remarqué aussi que le regard des gens était beaucoup plus insistant. Et je ne me suis pas directement sentie à l'aise avec. Quand je travaillais, donc entre mes 18 et mes 21 ans, je mettais des jupes colorées, des tuniques, des jeans, des pantalons. J'aimais beaucoup les accessoires aussi. J'ai eu une petite phase comme ça. Et c'est après que j'ai mis le djilbab de manière définitive. En fait, le djilbab, je l'ai mis quand je me suis mariée. Hein, un peu après que je me sois mariée, donc j'avais 20, 21 ans par là. Ouais, plus dans mes 21 ans, plus autour de mes 21 ans. Et c'est marrant parce que quand je m'étais voilée, il y a des personnes, non mais ça c'est incroyable, il y a des personnes qui pensaient que je m'étais mariée, des mamans qui me connaissaient et dont les enfants avaient grandi avec moi, pensaient que je m'étais mariée parce que je m'étais voilée. On m'avait même demandé, ça me fait sourire hein, quelque part parce que moi-même, je pensais que le hijab, c'était pour les vieilles, pour les mamans. Et ça m'a vieilli aussi. Ouais, je vais te dire très honnêtement, le hijab m'a vieilli parce que on m'a toujours donné plus que mon âge. On m'a toujours donné plus que mon âge depuis que je suis voilée. Dans la tête des gens, tu ne peux pas avoir seulement 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, voilà. Et être voilé, ce n'est pas possible, c'est incompréhensible, c'est inconcevable. Et pourtant, si. Donc j'ai passé tout mon été avec mon petit hijab. Voilà, les gens se sont vite habitués à me voir avec. D'ailleurs, on m'a toujours connue en hijab. Personne ne m'a connue sans, personne ne se souvient de moi sans hijab. J'ai été parmi les premières de ma génération à Nanterre à me voiler. Et je te dis la vérité, c'est tellement une fierté. C'est trop un flex. Franchement, c'est un flex de pouvoir se dire que, franchement, j'ai été parmi les premières. Alhamdoulilah. Je me vante pas, hein. Mais c'est de la fierté. Vraiment, c'est de la fierté. Et déjà, à l'époque, j'étais très fière de moi. Parce que j'étais sûre, j'étais certaine que Allah était fier de moi. Et aujourd'hui, je suis encore plus fière de moi. Parce que mon hijab, il est toujours là. Il est in, il est en place et Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi, ça ne bougera pas. J'ai sacrifié, j'ai renoncé à beaucoup de choses pour préserver mon hijab, pour préserver ma pratique. Ce n'est pas tous les jours facile, hein, mais je sais pourquoi je l'ai mis, je sais pour qui je l'ai mis et j'essaie de renouveler mon intention autant que possible au quotidien pour ne pas oublier pourquoi je l'ai fait et pourquoi je le fais encore aujourd'hui. Et Allah, il m'a tellement facilité, il m'a tellement favorisé parce que pour moi, oui, c'est une faveur hein, de sa part que de l'avoir mis aussi jeune. C'est, alhamdoulilah, c'est tellement un privilège que je me dis que je ne peux pas le décevoir, je ne peux pas le trahir. Je me dois d'être reconnaissante envers lui et le remercier en gardant et en préservant mon hijab. Je suis consciente hein, que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des sœurs qui veulent se voiler mais qui ne peuvent pas, d'autres qui n'arrivent pas à sauter le pas, d'autres qui sont en proie au waswas, d'autres qui ont peur. Certaines le mettent et le retirent parce qu'elles se rendent compte que, subhanallah, le port du hijab, notamment en France, relève du défi. C'est très, très dur de porter le hijab ici. Je peux comprendre, même si je ne cautionne pas forcément. Ajouter à cela, l'attente et l'exigence qu'on a envers nous, les voilés, la pression qu'on subit au quotidien de la part de notre communauté, subhanallah, c'est violent. C'est violent. Et qu'Allah nous facilite. Donc voilà comment j'ai été amenée à porter le hijab. Rien de magique ni de fantastique. Il n'y a pas eu de déclic, hein, ce fameux déclic dont on entend souvent parler, au point où on en vient hein, à demander quel a été ton déclic? Qu'est-ce qui a fait que? Quel a été l'élément déclencheur? Tu sais, je vais te dire un truc. En soi, le déclic, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, dans le sens où, effectivement, il y a des personnes qui vont se voiler à la suite d'un déclic. Des personnes qui vont se rapprocher d'Allah à la suite d'un déclic, d'un événement, d'un choc. Mais il ne faut pas l'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Le déclic, s'il doit venir, il viendra. Ce n'est pas quelque chose que tu peux provoquer, que tu peux programmer, que tu peux anticiper et que tu dois guetter. Non. Sinon, tu risques d'attendre très longtemps. Ne retarde pas. Le port du hijab plus que tu ne l'as déjà retardé en attendant qu'il se passe quelque chose. Moi, on m'a déjà demandé hein, Hawa, quel a été ton déclic? Et quand je réponds que je n'en ai pas eu, ça a tendance un petit peu à étonner. Je n'ai pas eu de déclic. Moi, quand j'ai su que c'était obligatoire, je me suis renseignée et je l'ai juste mis, alhamdoulilah. Mais moi, mon problème en fait, je vais t'expliquer ce que ça a été en deux anecdotes. La première, c'est que lorsque je me suis voilée, j'étais tellement pressée que je me suis renseignée, mais pas assez, tu vois. J'étais pas bien renseignée, j'étais pas bien informée sur le hijab. Je savais que je devais le porter, je savais que c'était une obligation, et je me suis arrêtée là. Ce qui fait que mon hijab, au départ, je le gardais H24. Je pensais que je n'avais pas le droit de l'enlever. Je dormais avec carrément. La seule chose que je ne faisais pas avec, c'était me laver. Je ne sais pas si tu te rends compte de la folie du truc. Bon, au bout de quelques jours, j'ai très vite compris que j'avais le droit de le retirer à la maison. Et deuxième anecdote du coup, c'est que quand j'ai su que j'avais le droit de le retirer quand j'étais à la maison, je me suis retrouvée à me dévoiler devant n'importe qui. Je ne connaissais pas encore la notion de mahram et je ne savais pas qu'il y avait des hommes devant lesquels je n'avais pas le droit de me dévoiler. Tellement, en fait c'était de l'ignorance, hein. C'était de l'ignorance pure et en même temps il y avait une part d'insouciance, hein. Faut pas oublier que j'avais 12 ans, hein. Et puis la notion de shari, la notion de légiférer, non légiférer, je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas ce que c'était et pendant des années, hein, avant ça personne n'en parlait autant, hein. Quand j'ai commencé à mettre le hijab, déjà en 2006, moi j'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai commencé à mettre le djilbab, je savais toujours pas ce qu'était un hijab shara'i. Avec le temps, bon voilà, hein, j'ai appris, j'ai approfondi mes connaissances et j'ai compris. Mais c'est pour te dire et te faire comprendre que très sincèrement, moi, quand je croise une sœur en hijab, quel que soit le hijab qu'elle porte, quelle que soit sa tenue, la première chose que je constate, c'est qu'elle porte un hijab. C'est que la sœur, elle est couverte. Et je ne prête pas attention, en fait, à ce qu'il y a autour. Elle porte ce qui fait que je peux et j'arrive à la reconnaître en tant que musulmane. Et finalement, bah, c'est ce qui compte le plus. Après, bien sûr que l'adoration, pour qu'elle soit acceptée d'Allah, il faut qu'elle soit légiférée en respectant certaines conditions. On est d'accord. Mais en vrai, ça, ce sont des choses qui viennent petit à petit, avec le temps, avec la patience et avec les efforts. Il n'y a qu'Allah qui peut juger et déterminer de la légifération de ton adoration. Tu sais, subhanallah, tu peux porter une tenue dite shara'i, légiférée. Si le comportement que tu as n'est pas shara'i, s'il n'est pas à la hauteur de ce que tu portes, c'est problématique aussi. Tandis qu'une personne peut ne pas porter des vêtements tout à fait légiférés, mais avoir un meilleur comportement que toi, et donc une meilleure considération auprès d'Allah. Tu as une meilleure tenue, mais elle a un meilleur comportement que toi. Et subhanallah, c'est ce qui va faire toute la différence auprès d'Allah. Après, alhamdulillah, Allahumma barik, il y a des sœurs qui ont et le comportement et la tenue, d'autres inversement qui n'ont ni le comportement ni la tenue, d'autres encore qui ont le comportement, mais pas la tenue. Et à contrario, certaines ont la tenue, mais pas le comportement. De toute façon, subhanallah, il faut de tout pour faire un monde. Le plus important, c'est de te réformer, de chercher à t'améliorer, à te rectifier et à faire des efforts là où tu sais que tu as des failles et des manquements. Dans tous les cas, ma sœur, qu'Allah te facilite le port du hijab si ce n'est pas encore fait, qu'Allah te raffermisse dans ce chemin, qu'Allah te préserve de dévier de cette voie. J'espère, Inch'Allah, que cet épisode t'encouragera à sauter le pas. Et je terminerai en disant, sois fier de ce que tu portes. Sois fier d'avoir répondu à l'ordre d'Allah. Marche la tête haute, bombe le torse, montre aux gens que tu aimes ce que tu portes, que tu es bien avec ce que tu portes et que le hijab ne t'empêche pas d'être celle que tu veux, mais qu'il est celle qu'Allah veut que tu sois. Ok? N'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des petits cœurs, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Inch'Allah. Wa barakallahu fiki wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.